Focus.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Focus sur la maladie, votre rubrique autour du quotidien sur la maladie d'Alzheimer. Alors nous allons évoquer un sujet d'actualité. Rappelez-vous, en avril 2022, un décret stipule qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer et apparentée ne pourra plus conduire de véhicule. Un arrêté publié au journal officiel acte, je cite, « l'incompatibilité définitive avec la conduite pour les pathologies neuroévolutives type maladie d'Alzheimer ». Dans cette optique, l'association France Alzheimer Manche organise tiens, une révision du code de la route. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'être en ligne avec Evelyne Rabeck, vice-présidente de France Alzheimer Manche et responsable du secteur Saint-Lois. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, première question pour vous, Evelyne. Cette décision, il y a un an autour de la conduite, comment elle a été reçue au sein de l'association? Est-ce que vous avez eu des témoignages justement dans ce sens?
Alors, au moment où ce décret est paru, on a eu peu, en fait, de retours. Ce décret a été mis en place de façon extrêmement précipitée, peu évoqué dans les médias. Et nous avons simplement, voilà, au bout de quelques temps, un retour de nos participants, notamment donc aux ateliers de mobilisation cognitive sur notre secteur. Nous avons eu un retour, voilà, de personnes évoquant leur interdiction de conduire dès l'apparition de quelques troubles, même pas le diagnostic posé.
Quelle autre solution, Evelyne, serait à disposition des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer si, du jour au lendemain, comme c'est le cas d'ailleurs, elles ne peuvent plus conduire? Comment faire pour elles?
Alors, je dirais qu'avant de cette interdiction ne soit mise en place vers le conducteur, il serait nécessaire qu'une visite d'aptitude médicale soit mise en place. Visite d'aptitude avec une équipe pluridisciplinaire qui comprendrait d'ailleurs le médecin traitant, le neurologue, le médecin agréé, afin qu'on puisse juger de cette possibilité encore de conduire. Le problème se pose chez nos malades ou personnes présentant voilà ces troubles, c'est que le quotidien ne peut plus être assuré parce que cette perte d'autonomie, la personne ne peut plus aller à ses rendez-vous médicaux, ne peut plus faire ses courses. Donc il aurait fallu anticiper avant ce décret, voir un peu quelle mobilité, quel déplacement ces personnes ont et quelles possibilités on leur offre pour continuer à vivre leur quotidien normalement. Alors en milieu urbain, sur notre secteur, le problème se pose un petit peu différemment puisqu'en milieu urbain, nous avons des solutions avec le service des bus. On a voilà un service d'aide à la personne avec ce qu'ils appellent le Je vis en ville, qui le petit slam, ce sont des véhicules qui prennent les personnes à leur domicile, les reconduisent à leur domicile. Mais en milieu rural, les personnes voilà sont dans un isolement le plus complet, faute d'avoir ces transports à appeler, encore que lorsqu'on a une maladie d'Alzheimer et des troubles très avérés, prendre son téléphone pour demander une prise en charge peut aussi paraître complètement difficile pour ces personnes.
Alors justement, en parlant de tout cela, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre initiative dans la Manche autour de la conduite et donc du code de la route ?
Cette initiative, cette proposition d'avoir un retour, une révision donc du code de la route est venue d'après un constat, puisque certaines personnes, dans la discussion lors de ces ateliers de mobilisation cognitive, ont évoqué leur interdiction de conduire en nous disant « Eh bien écoutez, moi je pense encore avoir cette capacité, mais on me l'a interdit, je suis raisonnable, je respecte, d'autres ne le respectent pas forcément, parce que pour tout, voilà, c'est problème de déplacement. » Et de ce constat, je leur ai proposé un jeu de mémoire. C'était la révision, donc cette révision du code de la route était présentée comme un jeu de mémoire, en accord d'ailleurs avec la neuropsychologue qui assure donc l'animation de ces ateliers. Et donc tous ont été unanimes à dire « Eh bien oui, on y va, on va revoir le code de la route ». Donc j'ai pu faire appel à la prévention routière qui a assuré cette animation.
Alors, c'est une première en France d'organiser ce genre de révision du code de la route.
Alors, je ne sais pas si c'est une première en France. En tout cas, sur notre secteur et sur le secteur manchois, c'est effectivement une première. La prévention routière et les animateurs étaient ravis parce que nous y avions invité effectivement voilà, les personnes qui participent à nos activités, mais également les conjoints et puis les adhérents et adhérentes qui voulaient bien voilà, participer à cette révision. Cette révision consistant en une proposition de 40 diapositives présentant des situations alors différentes hein, qui pouvaient aller voilà de l'alcoolémie au respect de certains panneaux à la signification du terme ABS. On a eu également quelques chiffres voilà sur la mortalité routière. Cette proposition a été reçue donc avec un vif succès et alors première, je le dis, je ne pense pas, je ne sais pas, mais en tout cas, révision bien utile.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur en quoi cela consiste, une révision type, tenez, ce qui se passe?
Alors, voilà, cette révision, nous avions donc une quarantaine de personnes, trois animateurs de la prévention routière, hein, qui sont venus donc proposer 40 diapositives avec un choix de réponses soit souvent multiples et on leur présentait des situations voilà des ronds-points où la conduite est un peu compliquée pour certains hein, est-ce que je dois aller sur la gauche, est-ce que je dois continuer sur ma droite pour aller vers une direction voilà on avait des panneaux, divers panneaux. Beaucoup de situations en fait qui demandaient une réflexion et qui permettaient aussi de revoir sa propre conduite.
Que vous disent les personnes qui assistent à ces révisions?
Alors pour certaines, alors l'évaluation passe aujourd'hui hein, dans le cadre de nos activités. Pour certaines, voilà, très très intéressant. Pour d'autres questions, enfin des réponses, on demandait des réponses un peu trop précipitamment, donc pas suffisamment de temps. Mais pour tous, prise de conscience pour certains de leurs difficultés. Pour d'autres, de l'inquiétude de se voir privés probablement dans quelques temps de leur autonomie, inquiets dans leur quotidien. Mais voilà, une révision saluée avec beaucoup d'enthousiasme par tout le monde.
Une fois que cette révision est faite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a un examen, un diplôme, une attestation?
Toutes celles et tous ceux qui sont venus, qui ne conduisent même plus, mais il y avait à l'issue de cette animation une autocorrection. Et effectivement, nous sommes aperçus tout de même que je pense que trois quarts de la salle n'auraient même plus leur permis de conduire actuellement. C'est clair. Mais certains ayant passé leur permis de conduire depuis 40 ans, 50 ans, n'ont pas eu cette façon de réviser un code. C'est un peu particulier, cette proposition voilà, de situation, les réponses adaptées. Ça a apporté quelques troubles également chez les personnes.
Et du coup, si la révision se passe bien, est-ce qu'ils ont le droit de réobtenir le code de la route?
Alors,
pas du tout. Enfin, c'est juste une.
C'était plus
honorifique.
À titre informatif et c'était surtout pour amener tout le monde à réfléchir un peu sur les difficultés de conduite que chacun peut présenter. Mais voilà, il n'y avait pas de permis de retirer non plus. Cette révision était suivie d'une correction par les animateurs et d'une explication sur les situations. Donc chacun a pu y trouver voilà, la réponse peut-être à ses propres difficultés.
Est-ce que vous pensez qu'il faut revoir le décret concernant la conduite des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer?
Ce décret, il nous semble effectivement qu'il faille de revoir. Et France Alzheimer, je pense, l'a bien souligné puisqu'il a fait un recours envers le Conseil d'État. Mais cet arrêté présente de nombreux problèmes. Il ne prévoit pas de mesures d'accompagnement du malade, de son aidant. Cela contrevient aussi à l'article 20 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention a donc été signée par l'État français à l'époque et qui s'est engagée à prendre des mesures pour assurer la mobilité des personnes handicapées. Donc, sur le quotidien, de nos malades et des familles, cet arrêté a des conséquences très importantes. Effectivement, on amène toutes ces personnes, et notamment en milieu rural, et ça on le sait, nous, dans notre département, on amène ces personnes à l'isolement, à l'exclusion sociale. Ce sont des personnes qui vont être également stigmatisées. Ce sont des personnes qui vont aggraver leur déclin cognitif, faute de lien social, d'organisation de leur quotidien. Nos gouvernants ne connaissent absolument pas les maladies neuroévolutives et ils ont totalement ignoré les conséquences désastreuses que cet arrêté précipité a mis en place. De plus, je pense que lorsque cette information va transiter vers les familles, les malades ne vont plus avoir envie de venir se faire diagnostiquer. On va perdre un temps qui va être préjudiciable aussi à la mise en place de l'accompagnement. On sait très bien qu'un accompagnement, qu'un diagnostic précoce permet également un meilleur accompagnement.
Et enfin, Evelyne, dernière question pour tous les auditeurs. Comment s'inscrire à cette révision du Code de la route ?
Cette révision était particulière à notre secteur. Après, je pense que les personnes qui veulent désirer une révision de leur code de la route peuvent aller vers la prévention routière. Je pense que dans notre secteur, il y a ce genre de réunion qui peut être proposée, mais encore faut-il que la demande soit suffisante.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Evelyne Rabec, de nous avoir accompagnés.
Merci à vous.
Et merci aussi à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez continuer de nous écouter sur le www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
C'était Focus, le podcast qui s'intéresse aux initiatives, à la recherche et au quotidien autour de la maladie d'Alzheimer.